الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد Nous sommes le 14 Dhul-Qi'da, 1446 de l'égir du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, correspondant au 11 mai 2025. Et nous voici dans notre quatrième assise fraternelle au sujet de la préparation des cœurs pour l'accomplissement du pèlerinage. Il est tellement important de se rendre en Terre Sainte avec un cœur apte, avec un cœur prêt, avec un cœur préparé à l'adoration de son Seigneur, à ce sublime pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Parmi les raisons pour lesquelles il est important de s'y préparer, le statut occupé par le pèlerin présent à la Mecque, accomplissant le pèlerinage, il est en effet considéré comme un invité d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nous allons méditer sur ce point aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et d'autres après celui-là. La sagesse ou le secret pour lequel les pèlerins accomplissant le pèlerinage sont considérés comme des invités d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous indique dans un hadith explicite « Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wasa'aluhu fa'a'tahum » Les pèlerins accomplissant le pèlerinage et la Umrah, le Hajj et la Umrah, représentent les délégations invitées d'Allah. Allahu Akbar. Allah les a invités et eux lui ont répondu. Puis, ils l'ont sollicité et lui leur a accordé. Quel magnifique échange entre le Créateur Tout-Puissant et la faible créature, entre le riche par excellence et le pauvre dans sa réalité. Allah l'invite. Ce dernier, celui-ci plutôt, lui répond et se met à solliciter Allah puisqu'il lui a répondu. Alors Allah Azza wa Jal lui accorde de ce que son serviteur lui demande. Subhanallah. Le secret dans cela, c'est que quand Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète Ibrahim alayhi salam d'inviter les gens au pèlerinage, وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ et passe l'appel pour que les gens viennent accomplir le pèlerinage, ces gens lui ont répondu favorablement. Ils ont dit « Labbaik Allahumma labbaik ». Me voici Allah répondant volontairement à ton appel. Me voici encore une fois. En répondant à cet appel, en exprimant cette talbiya, Allah Azza wa Jal a fait d'eux ses invités. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di rahimahullah ta'ala a dit لو لم يكن فيها من الحكم إلا أن حقيقة الحج استزارة الرب لأحبابه وأنه أوفدهم إلى كرامته ودعاهم إلى فضله وإحسانه ليسبغ عليهم من النعم والكرامات وأصناف الهبات ما لا تدركه العبارات وَلَا يُحِيطُ بِهِ الْوَصْفِ Ibn Si'di, rahimallah, dit « S'il n'y avait, derrière cette invitation ou derrière ce bienfait d'accomplir le pèlerinage, qu'un seul mérite, qu'une seule sagesse, qui serait la suivante, le fait qu'en réalité, le pèlerinage est une invitation de la part du Seigneur, à ses bien-aimés. Il les envoie en délégation d'inviter vers sa générosité. Il les appelle à son immense faveur, afin de déverser sur eux de ses grâces, de ses dons, de ses bienfaits, que les mots ne peuvent exprimer ni les esprits concevoir. Ça serait suffisant. S'il n'y avait que ce mérite-là dans le pèlerinage, ça suffirait largement pour répondre à l'invitation d'Allah. Le fait de savoir qu'Allah t'a invité, tu es un privilégié, il t'a honoré, il t'a gracié, il t'a élevé, il t'a favorisé, il t'a préféré, il t'a accueilli, invité, subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, il ne t'a invité que pour déverser sur toi de tous ses bienfaits, de ses immenses grâces, et te faire nager dans sa générosité, subhanahu wa ta'ala. Quand le pèlerin ressent dans son cœur le sentiment qu'il est l'invité d'Allah et que ce sentiment l'accompagne constamment tout au long des rites, cela produit de nombreux effets, parmi lesquels, premièrement, le fait de savoir que tu es l'invité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, va augmenter la saveur de la foi dans ton cœur. Ton cœur qui se remplira alors de bonheur, de quiétude, et qui remplira ta poitrine. Tu trouveras alors un délice à être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que la langue ne peut décrire, que l'on ne peut expliquer. Ce n'est que quelque chose que l'on ressent si Allah veut bien nous l'accorder. Subhanahu wa ta'ala, tu te sens en proximité avec ton Seigneur. Ton cœur est plein d'espoir en Allah, ton cœur est plein d'amour parce que tu es son invité. Tu es l'invité du maître des rois, du tout miséricordieux, du généreux, subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi un peu, et on ne fait pas de comparaison entre Allah et sa créature, mais simplement, imagine-toi un peu, un homme riche, généreux, connu pour sa bonté. Imagine-toi ensuite des gens se rendant chez cet homme, sans l'avoir prévenu, sans qu'il ne soit invité par cet homme au préalable. À votre avis, qu'est-ce que cet homme, avec ses caractères d'hospitalité connus, va faire quand il va voir ces gens débarquer chez lui? N'est-ce pas qu'il va les honorer du fait qu'il est généreux, du fait qu'il est plein de bonté envers les gens? Il va les honorer, n'est-ce pas? Sans les avoir invités, sans s'y être préparé. Imaginez-vous maintenant que cet homme-là les invite, les attend, sait qu'ils vont venir. Nul doute qu'il va les honorer encore plus que ce qu'il aurait fait si ces gens-là s'étaient présentés à lui sans qu'il ne les ait invités. Que dire alors quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a invité et qui vous attend? Alors Allah azza wa jal n'attend pas que vos corps, chers musulmans. Il attend vos cœurs. Il veut que vous veniez à lui avec des poitrines épanouies, avec des cœurs remplis de foi, avec des cœurs vénérant leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est ce cœur-là que tu dois présenter à Allah lorsque tu es favorisé en te rendant à la Mecque pour l'accomplissement du pèlerinage. Deuxièmement, le ressenti habitant le cœur du pèlerin, accomplissant le pèlerinage ou la umra, qu'il est l'invité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui fait ressentir qu'il est proche de lui. Car il est dans son hospitalité. Et c'est là que son espoir en Allah et que la bonne opinion qu'il se fait de lui augmente. Il se dit, je suis l'invité d'Allah, il m'a favorisé. Allah Azza wa Jal ne m'invite pas pour ne pas me pardonner au final. Il ne m'invite pas pour ne pas effacer mes péchés au final. Ce qui fait susciter en toi une augmentation d'espoir en Allah Azza wa Jal telle que ton âme se purifie et que tu t'élèves en degré. Troisièmement, le ressenti habitant le cœur du pèlerin accomplissant le Hajj et la Umrah, qu'il est sous l'hospitalité d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait ressentir ou fait naître en lui la pudeur envers son Seigneur qui l'a invité, son Seigneur qui l'a approché de lui. Il se sent pudique devant son noble Seigneur. Comment pourrais-je mal me comporter en face de celui, avec celui qui m'a invité? Alors il se met à respecter les règles de politesse, de bienséance pendant son pèlerinage. Il applique donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ » Nul rapport entre époux et épouse, nulle désobéissance et nulle polémique infructueuse, inutile au cours du pèlerinage. Il va appliquer cela et tous les interdits du ihram, il va les délaisser également parce qu'il sait qu'il est l'invité d'Allah. Imaginez-vous être invité par une noble personne. Allez-vous vous comporter chez cette personne qui vous invite comme bon vous semble? Ou alors vous allez surveiller votre tenue vestimentaire, vos paroles, vous allez faire attention non seulement à ce que vous allez dire, mais à quand est-ce que vous allez le dire. Vous n'oserez pas prendre la parole à tout va. Vous allez soigner votre apparence. Tout cela parce que vous êtes invité par un tel. Mais que dire alors lorsque vous êtes invité par Allah subhanahu wa ta'ala? Si tu sais que tu es invité d'Allah subhanahu wa azza wa jal, tu te comporteras de la meilleure des manières. Tu surveilleras ta langue, tu surveilleras tes yeux, tu surveilleras tes oreilles, tu surveilleras tes faits et gestes, tu surveilleras ton comportement avec les gens, car tu sauras qu'en réalité, ton comportement envers les gens ne sera que le reflet de ton comportement envers Allah et de la pudeur que tu éprouves envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses nobles compagnons « Istahyu min Allahi haqqa al-haya » « Ayez envers Allah une pudeur comme il se doit. » Les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit « Inna nastahi ya Rasul Allah » « Ô messager d'Allah, nous sommes pudiques envers Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « قَالَ لَيْسَ ذَلِكُمْ وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحْيَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Il répondit, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais avoir de la pudeur envers Allah comme il se doit, c'est préserver la tête et ce qu'elle renferme, le ventre et ce qu'il contient, se rappeler la mort et la décomposition du corps. Celui qui veut l'au-delà délaisse les parures de ce bas monde. Celui qui fait cela a vraiment eu de la pudeur envers Allah comme il se doit. Ce hadith est sublime. Le prophète alayhi salatu wa salam leur dit, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Votre esprit est allé ailleurs. La réalité de la pudeur envers Allah azza wa jal consiste à préserver la tête et ce qu'elle renferme. Qu'est-ce que la tête renferme? Qu'est-ce que la tête a autour d'elle? Les yeux. Fais attention à ce que tu regardes. La bouche, la langue. Fais attention à ce que tu dis. Les oreilles, fais attention à ce que tu écoutes. Si tu fais attention à ce que tu écoutes, regarde et dis, alors tu auras été pudique envers Allah avec ta tête. Le ventre est ce qu'il contient. Le ventre. Ne mange pas le haram. et ce qu'il contient ou ce qu'il entoure. Qu'est-ce qu'il y a à côté du ventre? Les parties intimes. Écarte-toi de la fornication. Écarte-toi de ces perversions. Ensuite, se rappeler de la mort et de la décomposition du corps. Et celui qui veut l'au-delà va délaisser ce bas monde. Celui qui agit ainsi aura eu une véritable pudeur envers Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit au sujet de la pudeur envers Allah. وَالْحَيَاءُ مِنَ الْحَيَاةِ وَمِنْهُ الْحَيَاءُ لِلْمَطَرِ لَكِنَّهُ مَقْصُورٌ وَعَلَى حَسَبِ حَيَاةِ الْقَلْبِ يَكُونُ فِيهِ قُوَّةُ خُلُقٍ قُوَّةٌ. Je vais aller directement en français pour gagner du temps. Il dit, rahimahullah ta'ala, la pudeur vient, le mot haya en arabe vient du mot hayatun, qui signifie la vie. Car en réalité, la pudeur fait partie de la vie du cœur. C'est pour ça qu'en arabe, on a appelé la pluie, al-matar, on l'a appelé al-haya. Parce que la pluie est source de vie. Plus le cœur est vivant, plus la pudeur est forte. Le manque de pudeur vient de la mort du cœur. Il dit aussi, la vraie pudeur est une qualité intérieure qui pousse à délaisser les choses blâmables et empêche d'être négligent envers celui qui mérite le plus le respect. Et ainsi, nous passons à un autre chapitre, Inch'Allah ta'ala. Beaucoup de sagesse, beaucoup de secrets bénéfiques pendant le pèlerinage, parmi lesquels la parole Allahu Akbar, At-Takbir, pendant le pèlerinage particulièrement. Si vous méditez, chers musulmans, sur la prononciation du takbir, Allahu Akbar, vous vous rendrez compte de façon très claire que la parole Allahu Akbar ne fait que revenir de façon répétitive, constante, du début du pèlerinage jusqu'à la fin, subhanallah. Cette parole-là, Allahu Akbar, fait partie des paroles de dhikr, d'évocation d'Allah, qui rapproche le serviteur de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, en raison de ce que cette parole contient comme vénération d'Allah, comme reconnaissance de son immensité, subhanahu wa ta'ala. Et si vous méditez, vous allez vous rendre compte dans le pèlerinage de ce qui suit. Premièrement, nous allons énumérer les différents moments, les différentes étapes du pèlerinage dans lesquelles on doit dire Allahu Akbar. Premièrement, lorsque l'on commence le tawaf, lorsque l'on va tourner autour de la maison sacrée, la Kaaba, on commencera le tawaf en disant Bismillah, Allahu Akbar. Et à chaque début de tour, on répétera Allahu Akbar. Ensuite, lorsque on se tient debout sur les monts As-Safa ainsi que le mont Al-Marwa, eh bien il faut dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lorsque l'on revient de Arafat, Allahu Akbar. Lorsque l'on se trouve à Muzdalifa, Allahu Akbar. Lorsque l'on marche en direction de Mina, Allahu Akbar. Lorsque l'on fait le jet de pierre sur les stèles, Allahu Akbar. Lorsque l'on fait le sacrifice des offrandes du pèlerinage, Allahu Akbar. Lorsque l'on se trouve dans les jours de Tashriq, les jours qui arrivent après le jour du Eid, eh bien, il faut prononcer le takbir Allahu Akbar. À la fin du pèlerinage, Allahu Akbar. Tout cela pour vous montrer que le pèlerinage sert à exprimer, à manifester la grandeur d'Allahu Azza wa Jal. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit en traitant le sens du takbir, de la parole Allahu Akbar, فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ذَاتًا وَقَدْرًا وَعِزَّةً وَجَلَالًا فَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ. Allah, exalté soit-il, est plus grand que toute chose par son essence, sa valeur, sa puissance et sa majesté. Il est plus grand que toute chose par son être, ses attributs et ses actes. Fin de citation. Le takbir sert à reconnaître que dans ton cœur, rien n'est plus grand qu'Allah. Rien ni personne n'est plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Au sujet du secret du takbir dans ces différents instants du pèlerinage ou autres dans lesquels il y a des rassemblements et que l'on dit le takbir, l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit « وَهَذَا كُلُّهُ يُبَيِّنُ أَنَّ التَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ فِي الْمَوَاضِعِ الْكِبَارِ لِكَثْرَةِ الْجَمْعِ أَوْ لِعَظَمَةِ الْفِعْلِ أَوْ لِقُوَّةِ الْحَالِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْكَبِيرَةِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ وَتَسْتَوْلِي كِبْرِيَاؤُهُ فِي الْقَلْبِ عَلَى كِبْرِيَاءِ تِلْكَ الْأُمُورِ الْكِبَارِ فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَكُونُ الْعِبَادُ لَهُ مُكَبِّرِينَ فَيَحْصُلُ لَهُمْ مَقْصُودَانِ مَقْصُودُ الْعِبَادَةِ بِتَكْبِيرِ قُلُوبِهِمْ لِلَّهِ وَمَقْصُودُ الْإِسْتِعَانَةِ بِانْقِيَادِ سَائِرِ الْمَطَالِبِ لِكِبْرِيَائِهِ. Quelle parole grandiose! Il nous dit tout cela montre que le takbir, Allahu Akbar, est légiféré dans les grands moments, en raison de la foule nombreuse, de la grandeur de l'action faite, de l'intensité de la situation, ou d'autres choses de ce genre, afin d'affirmer qu'Allah est plus grand et que sa grandeur domine dans le cœur toute autre grandeur apparente. Ainsi, la religion sera entièrement vouée à Allah et les serviteurs proclameront sa grandeur. Ils atteindront alors deux objectifs. L'objectif de l'adoration par la glorification de leur cœur pour Allah et l'objectif de la victoire en soumettant toutes les aspirations à la suprématie et à sa grandeur. Pardon, l'objectif, pas de la victoire, de la demande d'aide d'Allah, en soumettant toutes les aspirations à la suprématie et à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Voyez un peu l'importance d'apprendre votre pèlerinage, chers musulmans, mais d'aller dans ses profondeurs et de comprendre qu'est-ce que l'on peut en retirer comme bienfait intérieur dans nos cœurs, pour nos âmes, pour notre personne, pour notre vie. Lorsque le pèlerin prononce le takbir, sa vénération d'Allah augmente, son amour pour Allah également, mais aussi sa sincérité, sa crainte, son espoir en Allah, sa confiance en Allah. Car si tu as pour croyance qu'Allah est plus grand que tout, alors c'est lui qu'il faut aimer, craindre, vénérer, espérer. Pour lui, il faut être sincère. En lui, il faut placer sa confiance. Si tu as le ressenti dans ton cœur qu'il est plus grand que tout, qu'il est plus immense que tout, qu'il domine toutes les créatures, subhanahu wa ta'ala, cela va pousser ton cœur à se diriger vers le Seigneur qui est plus grand que tout. Tu auras alors honte de diriger ou rattacher ton cœur à autre que lui. Tu auras honte de t'attacher à ce bas monde et de le devancer aux ordres de ton Seigneur. Parce que tu comprendras le takbir. Tu auras honte de contrevenir aux ordres de ton Seigneur, parce que tu comprends le takbir. Tu auras honte de suivre un autre que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, car tu comprends le takbir. Et ainsi, les fruits bénéfiques de cette parole Allahu Akbar pousseront en toi et dans ton cœur et te feront vivre un lien fort avec le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, a dit au sujet de la vénération d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وهذه المنزلة تابعة للمعرفة فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه حق وصفه فقال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمة إلى أن قال رحمه الله وروح العبادة هو الإجلال والمحبة فإن تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. ابن القيم رحمه الله تعالى نجي ce degré de vénération découle directement de la connaissance d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus tu connais Allah, plus tu le vénères, plus tu lui reconnais sa grandeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois apprendre qui est Allah. Tu dois apprendre à connaître ton Seigneur par ses noms, par ses attributs, par ses actions, toutes ces informations de lui qu'il te donne dans le Coran ou dans la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou dans la parole de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui t'informe qui est Allah, qu'est-ce qu'Allah aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il fait, comment est sa puissance envers. Pas comment est sa puissance, mais comment il manifeste sa puissance envers les gens, envers ses créatures, comment il récompense les bienfaisants, punit les malfaisants, et ainsi de suite. Tout ça te fait connaître Allah davantage, subhanahu wa ta'ala. Plus la connaissance que l'on a de lui est grande, plus sa grandeur s'impose dans le cœur. Ainsi, les plus savants à son sujet sont ceux qui le vénèrent et l'honorent le plus. Allah a blâmé ceux qui ne lui accordent pas la grandeur qui lui est due, qui ne le connaissent pas comme il mérite d'être connu, et qui ne le décrivent pas comme il doit être décrit. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, dit « Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit ?» Ibn Abbas, radiyallahu anhu, explique ce verset en disant « Cela signifie, pourquoi ne reconnaissez-vous pas la grandeur d'Allah ?» Jusqu'à ce qu'Ibn al-Qayyim termine son propos en disant « L'essence même de l'adoration, c'est la vénération mêlée à l'amour. Si l'un des deux venait à faire défaut, l'adoration deviendrait corrompue. » Fin de citation. Voyez un peu l'importance de tout cela. Plus loin, encore une fois, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit, pour montrer l'immensité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'incapacité des serviteurs à définir le comment de cette immensité, il dit, je cite, فَكَيْفَ يَطْمَعُ الْعَقْلُ الْمَخْلُوقُ الْمَحْصُورُ الْمَحْدُودُ فِي مَعْرِفَةِ مَنْ لَهُ الْكَمَالُ كُلُّهُ وَالْجَمَالُ كُلُّهُ وَالْعِلْمُ كُلُّهُ وَالْقُدْرَةُ كُلُّهَا وَالْعَظَمَةُ كُلُّهَا وَالْكِبْرِيَاءُ كُلُّهُ مَنْ لَهُ كَشْفُ من له من إذا كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك الذي يقبض سماواته بيده فتغيب كما تغيب الخردلة في كف أحدنا الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نقرة عصفور من بحار العالم الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا وأشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام الساعة أقلام لفني المداد وفنيت الأقلام وَلَمْ تَنْفَدْ كَلِمَاتُهُ. الله أكبر. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, alors comment la raison créée, limitée et confinée, la raison humaine, pourrait-elle espérer connaître, le comment de celui qui possède la perfection absolue, la beauté absolue, la science absolue, la toute-puissance, la grandeur infinie et la souveraineté suprême. Celui qui, si le voile était levé de son visage, les lumières, les puretés de sa majesté réduiraient en cendres les cieux, la terre, tout ce qu'ils contiennent, ce qu'il y a entre eux et même au-delà. Celui qui saisit les cieux dans sa main, si bien qu'ils disparaissent comme un grain de moutarde dans la main de l'un d'entre nous, dans la paume de l'un d'entre nous. Celui dont la science est telle que l'ensemble des connaissances des créatures réunies ne représente par rapport à la science d'Allah pas plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. Celui dont les paroles sont inépuisables, quand bien même la mer serait de l'encre, et cette mer supplémentaire viendrait la prolonger, et que tous les arbres de la terre depuis sa création jusqu'au jour de la résurrection seraient transformés en plumes, l'encre s'épuiserait, les plumes se briseraient, mais ses paroles ne s'épuiseraient jamais. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est tout ce que je peux dire après avoir lu une telle parole. Nous passons à un point suivant sur lequel nous nous arrêterons, Inch'Allah Ta'ala. Les secrets de l'interdit du Ihram. Nous avions dit précédemment que lorsque le pèlerin entre en état de sacralisation, il entre dans un état que l'on appelle Al-Ihram, ce fameux Ihram qui doit se manifester au point géographique de départ de rite que l'on appelle Al-Miqat. Pendant Al-Ihram, il y a des interdits, d'où le nom Ihram. Ihram qui signifie rendre interdit quelque chose. C'est pourquoi justement le premier takbir de la prière, on l'appelle takbiratul ihram. Le takbir du ihram, pourquoi? Parce que dès lors que tu le prononces, tu t'es rendu interdit certaines choses telles que manger, parler et ainsi de suite. De même, lorsque tu entres en état de sacralisation, tu t'es rendu interdite certaines choses qui, en temps normal, te sont autorisées, mais qui deviennent interdites aux pèlerins dès qu'il entre en état d'ihram, que ce soit pour le hajj ou pour l'umra, et ceci jusqu'à ce qu'il en sorte. Et les interdits tels que le fait de se raser les cheveux, se couper les ongles, utiliser du parfum, contracter un mariage, chasser un gibier terrestre, avoir un rapport sexuel, ou tout ce qui est en prélude, les attouchements, les baisers, etc. Pour les hommes, se couvrir la tête avec un objet qui prend la forme, qui épouse la forme du corps, qui adhère à la tête directement, ou porter des vêtements cousus ajustés à la forme du corps. Pour les femmes, le niqab, les gants, et ainsi de suite. Les interdits du ihram ont des finalités et des sagesses. Premièrement, éveiller la crainte d'Allah dans le cœur du pèlerin. L'un des objectifs de ces interdits est de raviver la crainte d'Allah, al-khawf min Allah, dans le cœur. Cette crainte est l'un des actes du cœur les plus nobles et les plus bénéfiques qui soient. Elle est même obligatoire pour chaque croyant. Allah Azza wa Jal a dit « فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Quand la peur d'Allah Azza wa Jal s'installe dans le cœur, que se passe-t-il dans ce cœur? La peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala brûle les tentations et l'amour excessif de ce bas monde, l'envie de commettre le péché, l'envie de désobéir à Allah. Quelle est la chose qui vient abattre ces envies-là dans le cœur? La crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le cœur, dans son cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, pourrait être comparé à un oiseau. Pour voler correctement, l'oiseau a besoin de la tête et de ses deux ailes. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans cette comparaison. La tête de l'oiseau est comparable à l'amour que le croyant a pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'oiseau ne pourrait jamais vivre ni voler sans la tête. C'est la tête qui le dirige. Le croyant ne pourrait pas adorer Allah sans l'amour. C'est l'amour qui le dirige dans son cheminement vers Allah. Mais l'oiseau ne pourrait pas voler sans ses ailes. Et il a besoin des deux, pas d'une seule aile, des deux pour voler. Le croyant ne peut pas avancer vers Allah sans ces deux ailes qui sont la crainte d'Allah, mais aussi l'espoir en sa miséricorde. Lorsque cet équilibre est là, alors le croyant peut cheminer comme il se doit vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Si la tête est coupée, l'oiseau meurt. Si l'amour disparaît du cœur, la religion meurt. Si les deux ailes ou si les ailes sont absentes, il devient une proie facile pour tout prédateur. Pareil, s'il perd la crainte d'Allah, s'il perd l'espoir en Allah, il devient une proie facile pour Iblis, pour l'égarer. Et lorsque cette crainte d'Allah Azza wa Jal s'enracine dans le cœur du pèlerin, elle engendre ce que l'on appelle muraqabatullah. Et c'est justement le deuxième point. Donc la première finalité et sagesse derrière les interdits de l'ihram, c'est d'éveiller en soi la crainte d'Allah. Comment cela? Je suis pendant mon pèlerinage en état d'ihram. Je n'ai pas le droit de faire ces choses-là que l'on a citées. Si je les fais, j'ai désobéi à Allah. Et tu vois le pèlerin qui, tout au long de son pèlerinage, on voit des pèlerins qui viennent et qui posent des questions. J'ai commis telle chose. J'ai peur pour mon pèlerinage. Je regrette. Je me suis trompé. J'ai oublié. J'ai fait erreur. Qu'est-ce qui les pousse à poser toutes ces questions? C'est la crainte qu'ils ont. Comme si Allah Azza wa Jalla voulait te dire, regarde la situation dans laquelle tu es pendant ton pèlerinage. Tu as peur d'Allah. Tu fais attention à ne pas lui désobéir. C'est un rappel pour te dire que c'est ainsi que tu dois être toute ta vie, jusqu'à ton retour à Allah. Comme ton jeûne du mois de Ramadan. Tu as envie de manger. Tu as envie de boire. Mais tu t'abstiens par crainte d'Allah. Au point où si on te donnait 1 milliard d'or pour rompre le jeûne, tu ne l'accepterais pas. Parce que tu crains ton Seigneur. Allah te demande de le craindre constamment. L'état d'ihram fait naître en toi l'habitude de craindre Allah. Ensuite, cette habitude de craindre Allah te pousse à une deuxième finalité, des finalités du ihram qui est al-muraqaba, muraqabatullah. C'est la conscience constante qu'Allah te surveille. C'est le ressenti qu'Allah t'observe. C'est une des actions du cœur également. Lorsque cet acte-là s'ancre dans le cœur, tu atteins les plus hauts degrés dans ta religion. Et le prophète alayhi salatu wassalam a décrit al-muraqaba en disant أن تعبد الله كأنك تراه. C'est adorer Allah comme si tu le voyais. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Car si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ça c'est al-muraqaba. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit al-muraqaba, le sentiment qu'Allah te surveille, que tu dois garder dans ton cœur, c'est la conscience permanente que ton Seigneur voit ton extérieur comme ton intérieur. S'installer dans cette certitude, c'est la véritable muraqaba. C'est la prise de conscience qu'Allah t'observe, t'entend, connaît tes actes, à chaque instant, chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque clin d'œil. Et subhanallah, cette muraqaba te poussera à faire naître en toi la sincérité. Le problème de l'ostentation pendant le pèlerinage, nous pourrons en parler. Le problème de l'ostentation. Qu'est-ce qui fait que une personne se rend à la Mecque en vue d'accomplir le pèlerinage et penche vers les éloges des gens? Ils vont dire de moi que je suis pieux maintenant. J'ai été à la Mecque. On va carrément inventer un statut qui ne veut rien dire. Il rentre chez lui, on l'appelle Hajj, 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 Hajj. Le pèlerin, je ne sais quoi. Tu étais pèlerin pendant le pèlerinage. Maintenant, tu es un musulman comme tout le monde. Et pourquoi on devrait lui donner un respect supplémentaire? Allah Azza wa Jalla a dit « Inna akramakum indallahi atqakum » Le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. Eh bien, cette muraqaba que tu as dans le cœur va te forcer à être sincère. Si tu sais qu'Allah te surveille, qu'il est constamment à te surveiller, et que tu fixes cela dans ton cœur, tu deviendras pieux. Tu veilleras à ne pas te trouver là où Allah te l'a interdit, à ne pas être absent là où Allah t'a ordonné. Pourquoi ? Des fois, beaucoup de gens désertent la mosquée. Pourquoi beaucoup de musulmans se rendent dans des endroits qu'ils fréquentent où se trouvent beaucoup de péchés? Parce que la muraqaba dans le cœur est faible. Même si les tentations abondent, apportées par les shayatin et même par les hommes, lorsque la muraqaba est forte, eh bien, que se passe-t-il ? La personne craint Allah, la personne est sincère. Et al-muraqaba provoque dans le cœur de la personne de la joie, de la tranquillité et du bonheur. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « Ce lien intérieur avec Allah est source de joie, de délices et de douceur que rien dans ce bas monde ne peut égaler. » C'est un avant-goût du Jannah, du paradis. Un des pieux prédécesseurs, un des salafs, a dit « Il m'arrive de vivre des moments où je me dis « Si les gens du paradis vivent ce que je ressens, alors vraiment ils vivent un bonheur éternel. » Subhanallah, les salafs, les pieux prédécesseurs, ressentaient dans leur cœur une foi telle que l'un d'entre eux allait prononcer ce genre de paroles. Il se dit « Le délice que je sens en moi là, si les gens du paradis ressentent ça, ils seraient vraiment dans un bonheur. » Allahu Akbar. Face aux interdits du ihram, chers musulmans, on retrouve deux catégories de pèlerins. Premièrement, ceux chez qui ces interdits du ihram ont réveillé la crainte et la surveillance d'Allah. Ceux-là ont réussi à tirer un enseignement spirituel profond de l'école du pèlerinage. Le pèlerinage est une école. Quand on sort de l'école, on a appris quelque chose. Ceux qui sortent de l'école du pèlerinage avec plus de crainte d'Allah et de sentiment qu'Allah les surveille, ils ont réussi. Ils ont non seulement évité les interdits liés à l'ihram, mais en plus de cela, ils ont délaissé les autres péchés après le Hajj. Ces gens-là ont véritablement profité de leur pèlerinage. La deuxième catégorie de personnes, ceux qui ont respecté les interdits de l'Ihram, mais qui sont tombés dans d'autres péchés. Et je voudrais que vous soyez bien concentrés. Par exemple, la médisance, la calomnie, le fait de fumer la cigarette. C'est malheureux, mais vous allez le voir. Le regard interdit, le port de vêtements interdit, le rasage de la barbe pour les hommes. Quoi d'autre? Et toutes les sortes de péchés. Ces gens-là, pendant le pèlerinage, ont respecté les interdits du pèlerinage, mais ont commis des péchés. Et malheureusement, ces péchés-là qu'ils commettent réduisent la valeur de leur pèlerinage et font régresser la récompense. Tu es en état d'ihram. Tu vas discuter avec les gens. Fais attention à ta langue. Sois concentré sur ton adoration. Écoute mon conseil. Je ne suis pas là à te donner des leçons, mais c'est juste un conseil de quelqu'un qui a vu des choses là-bas. Tiens ta langue. Ne parle sur personne. Parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais attention à ta parole. Une des plus grandes ruses de Iblis pendant le pèlerinage, c'est de jouer avec ta langue. Ne sais-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayanu fiha » Le serviteur peut prononcer une seule parole à laquelle il ne fait pas attention. Il ne se rend pas compte de sa gravité et de tout ce qui en découle comme effet néfaste. Yahwi biha finnar ab'adama ou sab'ina kharifa. Et à cause de cette parole, on le jette dans le feu d'une distance en profondeur que l'on parcourrait en 70 ans. Pour une seule parole. Une seule parole. On ne parle même pas pendant le pèlerinage. Et il y a des gens qui, pendant le pèlerinage, des centaines de paroles, du matin au soir, aucun profit du Hajj, aucun profit de la Kaaba. Nous, on veut combattre ça. On veut éradiquer cela. On veut aider les gens à vivre leur pèlerinage. Tiens ta langue pendant le pèlerinage. Tiens tes paroles. Surveille ton langage. Surveille ton comportement. Tu es l'invité d'Allah. Quand tu entres chez quelqu'un, tu ne fais pas tout et n'importe quoi. Quand tu viens chez ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas faire tout et n'importe quoi. Fais attention. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, bien sûr, nous dit الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Le pèlerinage a lieu dans des mois déterminés. Celui qui entreprend le pèlerinage durant ces mois, alors qu'il n'y ait ni relation intime, ni péché, ni dispute pendant le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من حج هذا البيت. Celui qui accomplit le pèlerinage dans cette maison, فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ, sans avoir de relation intime, sans commettre de péché, خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. Allahu Akbar. Sortira de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Vous pensez que Shaitan va vous laisser? Je vais vous raconter une anecdote. Une année, nous nous sommes installés à Mina, premier jour du pèlerinage. Nous avons pris place dans les tentes. J'ai aussitôt pris la parole pour sensibiliser les pèlerins. Je leur ai dit, faites attention, à partir de maintenant, Iblis va tout faire pour gâcher votre action, pour vous faire commettre des péchés. S'il y a quoi que ce soit, rappelez-vous la crainte d'Allah, surveillez votre pèlerinage, comme vous surveillerez un trésor que vous ne voudrez pas perdre. Même pas une demi-heure après, la tente en face de nous, bagarre générale. Pourquoi on se bagarre? Pourquoi les gens se sont bagarrés? À cause des places. C'est ma place, non c'est la mienne, non c'est la tienne, non c'est pas la mienne, non c'est pas la tienne. On a assisté à une bagarre, ya subhanallah. Vous venez à peine d'arriver. Vous venez à peine de prendre place dans les tentes. Mais pourquoi vous vous battez? Laisse-le prendre la place, va voir ailleurs. Concentre-toi sur ton adoration. Donc faites très très attention à ça. Le shaitan ne va pas vous laisser. Vous allez être éprouvé avec la chaleur, avec la contrainte du voyage. Des fois vous allez avoir des questions sans forcément avoir aussitôt les réponses. Ça va vous mettre dans des situations de stress. Calmez-vous. Chaque minute que vous passez au pèlerinage est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, pendant le pèlerinage, il y a des gens, comme nous l'avons dit, qui vont se contenter de délaisser les interdits du pèlerinage tout en commettant d'autres interdits qui malheureusement vont réduire la récompense de leur pèlerinage et peut-être qui seront la cause d'une privation et de l'absence de ressenti dans le cœur que le pèlerinage t'a été utile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, nous guide dans le droit chemin, tous autant que nous sommes. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement sur telle ou telle personne, loin de là. Nous sommes tous ce faible serviteur, ce faible pécheur, et nous sommes tous concernés par ces propos, et on demande à Allah de nous pardonner. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, وآله وصحبه أجمعين.